Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est le porte-parole de Génération Mehdi Ouraoui. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Mehdi Ouraoui, samedi, des manifestations ont eu lieu en France et dans d'autres pays européens pour soutenir l'Aquarius, ce navire humanitaire qui sauve des réfugiés en Méditerranée. La veille, des militants d'extrême droite ont attaqué le siège de l'ONG SOS Méditerranée, accusé par Génération Identitaire de soutenir les passeurs. Qu'est-ce que demande votre parti politique Génération au sujet de l'Aquarius ?
Bon, il y a deux choses très importantes à dire. La première, c'est qu'on demande la dissolution de ces ligues d'extrême droite, qui sont quand même des groupements extrêmement dangereux. J'ai tendance à penser, moi je n'aime pas la victimisation, et encore moins la victimisation communautariste, mais enfin, si ces gens très bien habillés, qui sont très intégrés, hein, qui ont généralement des boulots dans la vraie vie tout à fait respectables, je crois qu'il y en avait un qui travaillait dans une banque, qui ensuite a été viré, parce que quand même ça faisait un peu beaucoup comme agissement le week-end d'aller chasser les migrants dans les Alpes. Si ces gens s'appelaient Mohamed ou Mamadou, je ne sais pas s'ils auraient une telle liberté d'action, et d'ailleurs il ne faut pas qu'ils aient une telle liberté d'action. Et donc la première revendication, c'est que ces gens qui se sont attaqués violemment aussi siège de l'Aquarius, où ils ont quand même violenté les salariés de SOS Méditerranée, ils les ont virés des locaux en les brutalisant, alors que quand même ce sont des humanitaires, ce sont des gens qui œuvrent toute l'année à sauver des vies. Donc que ces gens soient sanctionnés, que leur organisation soit dissoute, et d'ailleurs il y a quelque chose de très étonnant, c'est que cette organisation est basée à Lyon, et donc moi je pose la question de savoir pourquoi le ministère de l'Intérieur sous ce quinquennat n'a rien fait, alors que Génération Identitaire s'est distinguée il y a encore quelques semaines, enfin quelques mois, en allant chasser les migrants dans les Alpes, en obligeant des gens qui étaient quasiment pieds nus, des Africains qui avaient déjà traversé toute l'Italie, à faire marche arrière sur les sommets des Alpes. Et donc ces gens qui sont des habitués de la violence, qui sont des habitués des coups médiatiques, mais aussi de la violence et surtout d'un discours violent, xénophobe, soient sanctionnés, que leur organisation soit interdite. Mais à propos de l'Aquarius, il faut dire que ces actes sont le résultat, et moi je le dis très directement, c'est la résultante immédiate, concrète, directe, d'une campagne de dénigrement de SOS Méditerranée et de l'Aquarius, qui est menée maintenant depuis des mois par qui ? Par Madame Le Pen, par l'extrême droite, qui, sur les réseaux sociaux, qui, dans les déclarations de Madame Le Pen dans les médias, dans les différentes prises de parole des dirigeants du Front National, enfin du Rassemblement National maintenant, attaque systématiquement SOS Méditerranée et l'Aquarius depuis des semaines, et du gouvernement et du président de la République lui-même, qui ont stigmatisé cette association comme quasiment une association de passeurs et de gens qui encouragent l'immigration.
Vous êtes en train de dire qu'il y a le discours politique et puis le passage à l'acte.
Moi, je dis qu'il y a des gens qui sont passés à l'acte, mais il faut aussi poser la question de la responsabilité des gens qui, depuis des semaines et des mois, pointent du doigt cette association, qui est une association qui ne fait rien, il faut le rappeler, que secourir des femmes, des enfants et des hommes qui sont perdus en mer. Voilà. Et donc, il faut que toutes les responsabilités soient établies.
Qu'est-ce que vous pensez de la politique d'Emmanuel Macron sur l'accueil de ces migrants et de ces réfugiés ?
Mais c'est une terrible hypocrisie. Macron a été élu sur l'idée qu'il était et de droite et de gauche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de gauche qui se sont dit « bon, ce sera quelqu'un d'un peu libéral, ça, il fera des mesures libérales économiquement, mais enfin, il sera aussi libéral politiquement. » Or, qu'est-ce qu'on voit sur les sujets qui touchent à la PMA, qui touchent aux réformes de société, etc. Il est très conservateur. Mais alors, surtout, c'est sur l'immigration. Sur l'immigration, c'est absolument frappant de voir que la loi Asile Immigration, qui est d'une dureté absolue, qui inscrit dans la loi la possibilité de mettre les enfants en centre de rétention plus longtemps, et même de les y mettre tout court. Donc la loi Asile Immigration, qui est extrêmement dure, quand il parlait des quoi ça, quand il s'amusait sur les quoi ça, en disant que ça drainait du Comorien, enfin je ne me rappelle plus l'expression exacte, mais enfin une expression quand même qui était très très vraiment très limite, qui ressemblait au white et au blancos de Manuel Valls à l'époque. Et donc le problème, c'est que M. Macron nous a fait croire que c'était un libéral, or c'est un conservateur, y compris en matière d'immigration. Et surtout, le plus hypocrite dans tout ça, c'est qu'il se présente comme un rempart à Salvini, le fasciste, vous savez, le ministre de l'Intérieur italien.
Qui a reçu Marine Le Pen aujourd'hui.
Et donc il fait croire qu'il y aurait une espèce de match entre les libéraux et les populistes, les racistes en Europe. Or, on voit bien que ce n'est absolument pas un match, que c'est un match de catch, et que, comme chacun sait, les matchs de catch, c'est toujours truqué, et qu'en fait, il joue aux épouvantails avec M. Salvini, mais que ce n'est pas du tout un rempart, c'est le complice de Salvini. Macron, c'est le complice de Salvini. Il fait la même politique que lui, c'est-à-dire que une femme, un enfant, un homme qui est sur l'Aquarius, il entend de la part de Salvini non pour l'Italie, il entend de la part de Macron non pour la France.
La France devrait concrètement offrir un pavillon à l'Aquarius pour lui permettre de naviguer encore en Méditerranée.
Mais vous vous rendez compte où on en est ? Ne serait-ce que se poser la question. C'est comme si on demandait si la France devait accepter de donner des subventions à la Croix-Rouge, si la France devait accepter de continuer à soutenir Médecins Sans Frontières. Mais évidemment qu'il faut un pavillon français pour l'Aquarius. C'est une association qui est basée à Marseille, qui fait honneur aux valeurs du pays. Quand l'Aquarius sauve 80... j'en ai même marre d'utiliser ce terme de migrants ou de réfugiés, parce qu'on a l'impression que c'est théorique. Ce sont des gens, ce sont des humains. À chaque fois que l'Aquarius sauve 80, 100, 200, 300, 600 vies humaines, ils font honneur à la France et donc évidemment il faut les soutenir.
Mehdi Ourawi, la France insoumise demande que l'on agisse aussi sur les causes de l'émigration, pas seulement sur les conséquences. Un motif de discorde semble-t-il au sein de la gauche. Jean-Luc Mélenchon n'a d'ailleurs pas voulu signer l'appel de regard Mediapart et Politis, contrairement à Benoît Hamon. Quelle analyse faites-vous des récentes prises de position de la France insoumise sur les réfugiés ? Quelle est la divergence de fond entre vous et la France insoumise ?
Bon, d'abord, moi, je vais commencer par dire que, comme tous les gens de gauche dans ce pays, je suis exaspéré par les divisions. Ça me fatigue. On en a marre. On en a marre que les petits chefs, les petits hommes providentiels lèvent chacun son petit doigt en disant « je veux être le prochain président » et du coup, pour ça, je suis prêt à tout, à avoir n'importe quelle stratégie populiste, à céder sur n'importe quelle valeur, etc. Bon, je veux dire aussi que Jean-Luc Mélenchon est un bon républicain et que c'est quelqu'un qui a toujours été, disons, d'une fibre proche de celle des immigrés et de leurs enfants. Néanmoins, nous avons une divergence. Il faut la mettre sur la table de façon sereine. Des gens comme Djordje Kuzmanovic, qui est orateur national, donc qui est porte-parole, donc qui est mon équivalent, entre guillemets, à la France insoumise, qui a salué la création, vous savez, de ce parti allemand de gauche anti-migrant qui s'appelle Aufstehen, qui dit quoi ? Qui dit, bon, aujourd'hui, les réfugiés, ok, bon, enfin, pas trop, c'est ce que dit Madame Wagenknecht à Aufstehen. Elle dit par exemple qu'elle est contre l'accueil des réfugiés par Angela Merkel en 2015.
Elle est de gauche, hein, on précise.
Elle dit qu'elle est de gauche. Et elle dit, moi, pour des raisons sociales, je dis qu'il y a trop d'immigrés. Bon, enfin, je sais pas si elle est de gauche.
En tout cas, elle se prétend incarner la gauche.
Elle se prétend de gauche, mais enfin, elle dit, voilà, pour des raisons sociales, parce que tout ça fait pression sur les salaires, parce que du coup, les étrangers sont une main-d'œuvre que les patrons peuvent utiliser à la place de la main-d'œuvre française. Tout ça fait pression sur les droits des salariés qui sont déjà en place.
C'est un peu ce que disait Georges Marchais en 1981.
Et d'ailleurs, les gens de ma génération se rappellent. Alors, c'est un peu vieux, désolé, mais enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamin de ces images, parfois de syndicalistes, parfois de militants qui se revendiquaient de la gauche, qui muraient les foyers sur la Cotra, donc les ancêtres des foyers de travailleurs migrants, quoi, où il y avait des gens qui nous ressemblaient, quoi, des gens qui avaient la même tête que nous, qui étaient nos aînés, qui étaient venus travailler dur pour ce pays, et qui se retrouvaient à se faire engueuler, voire à se faire foutre dehors de chez eux, parce que, soi-disant, ils venaient voler le travail des Français. Et donc, il y a, dans la France insoumise aujourd'hui, un débat pour, effectivement, il y a des gens comme Clémentine Autain qui ne sont pas du tout d'accord, mais enfin qui sont minoritaires aujourd'hui parmi les parlementaires de la France insoumise, mais il y a quand même cette musique selon laquelle, pour défendre les droits des travailleurs français, contre les patrons français, il faudrait, disons, moins d'immigration de travail. Or, ça n'est pas vrai.
C'est vraiment ce que dit la France insoumise. Vous avez cité un porte-parole, mais il a été désavoué tout de même par Jean-Luc Mélenchon.
Mais alors, moi, j'aime pas le en même temps chez Macron, mais je l'aime pas non plus chez mes amis politiques. Moi, je pense que sur ces sujets-là, il faut être clair. que c'est pas compliqué. La pétition dont on parle, dont on a un peu parlé dans les médias ces derniers temps, qui a été signée par tout le monde, voilà, par tous les gens qui ont un peu une fibre humaniste, de défense des migrants, de défense des réfugiés, de défense des droits de l'homme, tout le monde l'a signée. Et au lieu de déclencher une petite polémique en croyant qu'il y avait un complot contre lui, etc., Jean-Luc aurait dû signer. Il aurait dû signer ce texte. Parce qu'on n'a pas le droit de se diviser aujourd'hui face à Macron, face à Le Pen, sur des valeurs aussi fondamentales. Mais surtout, moi je veux dire à ceux qui nous écoutent, ne vous laissez plus « emmerder », entre guillemets, désolé du mot, par ces gens qui nous expliquent qu'il y a une immigration de travail qui viendrait manger les droits des travailleurs français. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un immigré, les patrons n'aiment que les immigrés illégaux. Les patrons, ils aiment bien les clandestins. Et donc, plus on fera des lois contre l'immigration, plus on fera... Et d'ailleurs, personne n'est laxiste dans ce pays sur l'immigration. C'est-à-dire que les lois sont de plus en plus dures, même sous la gauche, depuis 30 ans. Plus on fera des lois pour créer des sans-papiers, plus on fera plaisir aux patrons. C'est ça, la vérité.
Génération Mehdi Ouraoui demande à ce que tout immigré, tout réfugié, tout migrant qui se présente sur le sol européen soit régularisé.
Bah déjà, c'est trois choses différentes.
Qu'il soit titulaire, demandeur du droit d'asile ou bien migrant économique avec beaucoup de guillemets.
Non, on dit une chose un peu différente. On dit, voilà, sur l'asile, il va falloir prendre plus de gens. Et on le dit comme ça parce que c'est une question de courage politique. Ça n'est pas vrai que quand au Liban ou dans certains pays limitrophes de la Syrie, il y a des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés, la France, 6e, 7e puissance économique mondiale, ne peut pas prendre sa part de responsabilité et continue à délivrer 9 fois moins de titres protecteurs, donc d'asile et de réfugiés, que sa voisine l'Allemagne. Ça n'est pas vrai, il faut arrêter de mentir aux gens, il faut arrêter de leur raconter, comme Trump, qu'on pourra faire des barbelés, des murs, etc. Nous ne sommes pas une île, et donc il y aura cette immigration. Il y aura aussi les réfugiés climatiques, et il y aura aussi, qu'on le veuille ou non, parce que moi, vous savez, voilà, je suis un jeune papa depuis quelques mois. Et la réalité, c'est que n'importe qui ayant une famille, ce qui est comme le cas de la plupart d'entre nous, n'importe qui ayant une famille, sait bien que si ces gosses sont en train de crever de faim, si ces gosses sont menacés par la guerre, par la misère, etc., on partirait. On partirait et on sait très bien que ce n'est pas l'horizon de rêver pour tout le monde d'aller fouiller dans les poubelles de la gare du Nord, parce qu'aujourd'hui, le lot d'un réfugié, le lot d'un demandeur d'asile en France, souvent c'est ça, ça n'est pas l'horizon rêvé pour tout le monde, mais on sait très bien que nous aussi nous le ferions. Et nous savons aussi que en France, les gens l'ont aussi fait. Moi, je viens d'un pays qui est le Pays Basque, c'est ma région. On a aussi cette culture-là du départ. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Pays Basque pour aller chercher du travail, parce que dans les familles, il n'y avait pas assez d'argent. Parce que, voilà, c'est aussi cette culture-là qu'il faut comprendre.
Mehdi Ouraoui, on l'a dit tout à l'heure, Marine Le Pen a été reçue aujourd'hui par Matteo Salvini, qui est un de ses modèles politiques avec Viktor Orban. Comment empêcher l'extrême droite de décider du destin de l'Europe ?
Là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un... D'ailleurs, ils s'appellent comme ça eux-mêmes, il y a un axe. C'est effrayant, parce que ce terme d'axe, c'est quand même celui, il faut le rappeler, il faut toujours faire un peu d'histoire, c'est quand même celui qui était utilisé par les fascistes et les nazis, à l'époque, donc Mussolini et Hitler, pour désigner l'alliance qu'ils avaient forgée en Europe, pour conquérir l'Europe, pour détruire les Juifs, détruire les Roms, détruire les homosexuels, voilà, et imposer le... Bon, alors, pour Hitler, le Troisième Reich. Et donc, on voit bien qu'à partir du moment où ces gens-là reprennent aussi ce vocabulaire-là, on voit bien qu'ils sont déterminés à imposer leur idéologie extrêmement dangereuse, extrémiste, leur idéologie de haine. Comment les empêcher ? Bon. Déjà, il faut, en disant la vérité, à l'instant, je disais, sur les réfugiés, etc., il faut quand même, à un moment donné, dire la vérité aux Français. Je crois qu'il faut arrêter de faire croire à nos concitoyens, comme le fait la classe politique depuis 30 ans, que le problème, c'est l'immigré, le problème, c'est le chômeur, le problème, c'est le pauvre, le problème, c'est toujours celui qui a un peu plus ou un peu moins que vous. Et pendant ce temps-là...
Mais pourquoi c'est ce discours-là qui séduit votre discours ? On ne l'entend pas aujourd'hui. Il ne passe pas.
Mais nous avons perdu la bataille idéologique. Mais pourquoi ? Parce que nous ne l'avons pas menée. Parce que nous ne l'avons pas menée. Nous n'avons pas dit... là, moi, je le vois, c'est un peu triste à dire, mais dans le dernier quinquennat, qu'est-ce qu'on a retenu ? On a retenu la loi travail et la déchéance de nationalité. Nous avons cédé idéologiquement à la droite et à l'extrême droite. Et donc, il faut demain une gauche, demain et aujourd'hui même, il faut une gauche capable de dire on est vraiment de gauche et en même temps on veut vraiment gouverner, on est vraiment réformiste, on s'inscrit dans le réel. Je prends toujours un exemple dans ce cas-là, je prends l'exemple du revenu universel. Où beaucoup, et je vais vous faire une confidence, moi le premier, on ricanait quand Benoît Hamon a commencé à dire ça. Alors, moi j'ai ricané tôt et ensuite j'ai été assez vite convaincu parce qu'il a de bons arguments. Mais le revenu universel, par exemple, c'est une idée au départ qui faisait ricaner beaucoup de gens. Mais c'est une idée révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une idée qui, à la fois, est totalement ancrée dans la réalité sociale des gens, et en même temps, dans une analyse du travail, on voit bien tous aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on est en chômage de masse dans ce pays, donc on devrait quand même commencer à s'en apercevoir, on voit bien qu'il y a une disparition du travail. On voit bien qu'il y a une disparition du travail humain, et qu'il y a une robotisation, qu'il y a une financiarisation, qu'il y a une mondialisation, etc. Et donc, il faut trouver des solutions qui permettent de financer les systèmes sociaux. Par exemple, Macron augmente la CSG sur les retraités. Mais enfin, s'il était vraiment disruptif, son mot-là, pour dire révolutionnaire, pour dire jeune, pour dire moderne, etc., bah, il dirait, voilà, en réalité, quand le patron de Carrefour, il supprime 3000 postes, c'est plutôt pour remplacer par des robots que remplacer par des Afghans, ou remplacer par des pauvres, remplacer par... Enfin, je sais pas par qui, mais enfin, il remplace surtout par des robots, par des caisses automatiques. Et donc, il faut être capable, à gauche, d'avoir une imagination et une audace qui nous manque pour convaincre, et à commencer par les classes populaires.
Vous êtes en train de dire que le problème de la gauche, c'est qu'elle est arrivée au pouvoir, mais qu'elle n'avait pas assez travaillé avant d'arriver au pouvoir.
On n'avait pas assez travaillé, on n'avait pas assez d'idées, on n'avait pas assez pensé le monde tel qu'il est aujourd'hui. Évidemment, on parle de transition écologique, tout ça est toujours très abstrait, etc. Mais globalement, sur tous ces sujets-là, sur l'environnement, la planète, sur les robots, sur la mondialisation, sur le fait qu'il y a, voilà, maintenant, les entreprises n'ont plus de frontières, Google, Amazon, Starbucks, McDonald's, etc. Bon. Sur tous ces sujets-là, il faut complètement revoir notre grille d'analyse. Et en gros, il y a trois camps. Il y a ceux qui vous expliquent, bon, de toute façon, on va être obligé de revenir en arrière. On vous propose de, je sais pas quoi, de sortir de l'Union Européenne, de revenir au franc, on va revenir à la bougie, ce sera super, on va terminer la mondialisation, on va tout fermer, toutes les frontières, etc. Machin. Tous ces gens-là vous mentent. Voilà. Deuxième hypothèse, c'est les gens qui vous expliquent « Ah bon, on peut rien faire. Ah ouais, Amazon est trop fort, McDo est trop fort, Google est trop fort, bah vous comprenez, on peut plus rien faire, machin. » Et puis, nous, on pense qu'il y a une troisième solution, c'est que les citoyens disent à un moment donné « Stop. Là, nous, on comprend que tout ça existe, que c'est moderne, que c'est le nouveau monde, mais on veut avoir notre mot à dire et le mot citoyen dans cette nouvelle mondialisation. »
L'invité de Pluriel est le porte-parole de Génération Mehdi Ourraoui. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Mehdi Ourraoui, porte-parole de Génération. Alors Benoît Hamon était ce week-end dans le Pays Basque, région qui vous est chère. Benoît Hamon qui est l'un des membres fondateurs de Génération. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite ?
Alors il est venu dans ma région, ce qui est évidemment toujours agréable pour le nouveau porte-parole que je suis dans l'organisation. Il était invité parce que il y avait un énorme événement écologiste au Pays Basque qui s'appelle Alternatiba, où les citoyens se rencontrent pour échanger, discuter de façon très concrète sur les solutions écologiques très concrètes qu'on peut mettre en œuvre pour, alors c'est le slogan d'Alternatiba, changer le système et pas changer le climat. Voilà, c'est une démarche extrêmement citoyenne. Donc l'idée, c'était de venir s'irriguer un peu les neurones, s'irriguer un peu, s'oxygéner politiquement. Il faisait évidemment une conférence, alors lui, il a parlé de la dimension sociale qui est très importante de la transition écologique, c'est-à-dire comment on fait pour que les foyers les plus modestes, les gens qui sont aujourd'hui pénalisés, qui payent trois fois la facture, quoi, c'est-à-dire qui payent plus de chauffage parce que leur appartement est mal isolé, qui payent plus d'essence parce qu'ils habitent loin du boulot, qui payent, voilà, on a mille exemples de la vie concrète, on sait très bien que c'est comme ça que ça fonctionne, et on sait toujours que ce sont les plus pauvres qui sont aussi les plus discriminés écologiquement, j'ai envie de dire. Et donc, il est venu un peu regarder tout ce qui se proposait dans ce moment important qui est Alternatiba.
Alors, les scientifiques du GIEC ont publié un nouveau rapport sur le climat, rapport inquiétant qui comporte une note d'espoir tout de même, puisque si les gouvernements de la planète agissaient maintenant, on parviendrait à empêcher les températures de monter. L'écologie, aujourd'hui, c'est au cœur des préoccupations de génération.
Oui, mais alors, nous, on dit des choses de façon assez simple. Nous, on a une écologie clairement de gauche et une gauche clairement européenne. Je m'explique. Aujourd'hui, vous savez, c'est assez terrible parce qu'on a toujours l'impression qu'on essaye de nous vendre des trucs marketing et des trucs cosmétiques. Vous avez les gens qui vous expliquent, bon, il y a l'écologie, on fait comme avant. Bon, on met un peu de vert, on fait entrer un ancien membre d'Europe Écologie Les Verts au gouvernement avec De Rugy qui remplace Hulot. Mais bon, on change rien, on continue à faire du nucléaire, on continue à faire du consommer plus, on continue, voilà. Bon, on continue tout comme avant. On continue à être vendu au lobby, voilà, bon. Donc on fait de l'écologie cosmétique et marketing. Et d'ailleurs, il y en a certains parfois qui, même dans l'opposition, défendent cette idée-là, c'est une écologie ni de droite ni de gauche. Ensuite, il y a ceux qui nous expliquent que l'écologie, elle pourrait se faire dans les frontières de la France. Vous savez, changer la planète, mais entre Lille et Marseille, quoi. C'est-à-dire que vous imaginez bien que quand il y a Fukushima au Japon, quand il y a des tornades ou des ouragans terribles comme à Saint-Martin, ou simplement la canicule, comme on l'a vu chez nous, vous imaginez bien que ce sont des problèmes qui...
Et puis on a des centrales nucléaires qui sont à la frontière, par exemple, de l'Allemagne.
Exactement. Et puis en plus, nous-mêmes, on alimente un certain nombre de pays en électricité. Puis surtout... Surtout, nous-mêmes, on pille certains pays pour pouvoir alimenter nos centrales nucléaires.
Vous pensez au Niger, par exemple ?
Bien sûr, je pense au Niger, évidemment. Je pense qu'on a un énorme problème. Moi, je suis allé au Niger, excusez-moi, mais ça ne donne pas l'impression, quand même, d'être un pays qui a beaucoup profité de la manne nucléaire française. Hein. J'ai discuté avec des responsables, notamment associatifs du Niger. Ils n'ont jamais vu la couleur du début, du commencement, du ruissellement qu'aime M. Macron, par exemple, de la manne nucléaire française. Et juste pour finir sur ce point, il y a donc ceux qui nous expliquent qu'on peut tout faire dans les frontières françaises, alors qu'on sait très bien qu'il faut au moins le faire à l'échelle européenne. Nous, on dit, voilà, le cadre, c'est un cadre évidemment européen, mais surtout ce qu'on dit, c'est qu'il faudra changer de système. C'est-à-dire que ça n'est pas vrai que dans le système capitaliste actuel, où on consomme toujours plus, on détruit toujours plus, on pourra sauver la planète.
Vous préconisez l'écologie punitive, l'écologie de la sobriété ?
Pas du tout. Alors d'abord, la sobriété, c'est pas. Il y a beaucoup plein de gens sobres qui considèrent pas qu'ils sont punis. Moi, je suis plutôt un bon vivant, mais enfin, je sais aussi que parfois, c'est bien de faire quand même plus modeste et plus sobre que toujours faire bombance, toujours faire la fête. Dans la vie quotidienne, on est tous plutôt quand même sobres que l'inverse. Et puis, il y a quand même beaucoup de problèmes d'obésité, de problèmes de santé, de voilà. Bon, c'est tout. Donc, la sobriété n'est pas négative. Et alors, ce truc d'écologie positive. Punitive, qui a été très développée ces dernières années, et notamment par certains lobbies qui ont réussi à installer leurs éléments de langage. C'est une théorie qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faudra prendre des décisions qui sont difficiles. Mais alors, je vais présenter les choses de façon un peu différente et un peu originale pour une fois. Quand on parle de sobriété, c'est pas forcément la sobriété de vous et moi, Loïc Barrière. C'est-à-dire que la France n'a jamais été un pays aussi riche. Et c'est un pays qui n'a jamais autant produit qu'aujourd'hui. Et pourtant, nous avons 9 millions de pauvres, 8 millions de mal logés, des millions de gens qui vont au Resto du Cœur chaque année. Donc peut-être qu'on peut considérer que il n'y aura pas de punition individuelle, mais que collectivement, on peut mieux répartir ce qui est produit. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on n'est pas collectivement plus heureux parce que le PIB de la France augmente, parce qu'il y a toujours plus de croissance, etc. Aujourd'hui, la croissance, elle profite à qui ? Elle profite à ceux qui s'enrichissent, elle profite aux riches.
Il y a deux façons aussi de faire de l'écologie, si je puis me permettre, Mehdi Ouraoui. Vous avez, par exemple, les simples citoyens qui vont tenter de ne plus acheter de produits avec des barquettes en plastique, qui vont tenter à leur petit niveau de lutter contre le plastique. Et puis, vous avez l'industrie du plastique. Est-ce que une politique publique, c'est d'abord de demander aux puissances industrielles de faire des efforts et non pas aux citoyens ? Parce que jusqu'à présent, c'est aux citoyens qu'on demande des efforts.
Les deux ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que c'est bien qu'individuellement, je pense qu'il y a quelques années, on avait une espèce de culture comme ça où on pouvait jeter par la fenêtre des déchets, etc. Quand même, on a compris collectivement... qu'en voiture, c'était pas génial quand même de jeter, je sais pas quoi, son paquet de chips,
Y compris les mégots à cigarettes.
Y compris les mégots à cigarettes.
Une pollution.
Collectivement, on a quand même plutôt pris conscience du problème. Moi, ce qui m'embête, c'est que, alors que pour une première fois historique, les citoyens, justement, ont pris conscience du problème, on a l'impression que cette prise de conscience va être contrariée, contredite par les grands lobbies, par le lobby nucléaire, par le lobby du glyphosate, par, on a bien vu le renoncement de Macron sur l'interdiction du glyphosate, alors que, enfin, excusez-moi, mais enfin, quand je vois le corps en lambeaux, je sais pas, tout le monde doit se souvenir de ces images, de Dwayne Johnson, le jardinier américain qui a fait plier Monsanto, on comprend que, quand même, les grandes firmes sont prêtes à tout pour empoisonner, parfois, le consommateur ou les travailleurs, etc. Quand on voit les conditions de vie dans certains abattoirs, des salariés, mais aussi des animaux, on se dit que quand on parle de bien-être animal, ça n'est pas que parce qu'on aime les petits oiseaux et les brebis et les machins, même si on les aime bien. Mais enfin, il y a aussi la condition de vie du travailleur qui va le matin au boulot et à qui qu'on met sous pression en permanence et qui se retrouve à malmener des animaux simplement parce qu'il faut qu'il aille plus vite, que la cadence doit être plus forte, etc. Qu'il faut produire plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Notre ennemi, c'est pas ni le citoyen, ni la pratique forcément individuelle, c'est ce toujours plus qui conduit à s'autodétruire les uns les autres.
Mehdi Ouraoui, Benoît Hamon a été ministre de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que cette économie doit être développée en France ?
Oui, surtout c'est une économie qui se développe déjà beaucoup par elle-même. Et c'est assez fascinant de voir que l'économie coopérative, des gens qui considèrent que on peut très bien entreprendre et être une espèce de start-upper un peu innovant, un peu voilà, un peu.
On peut redéfinir ce que c'est que cette économie sociale et solidaire.
C'est une économie qui à la fois est peut être lucrative. C'est pas une économie, c'est pas, il ne s'agit pas forcément d'association. Mais c'est une économie qui repose sur davantage de démocratie dans l'entreprise. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, tout le sujet. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que, bon, d'une part, en France, on a un énorme problème démocratique qui est lié à la Ve République, qui est que le citoyen a quand même finalement peu de droits, et entre deux élections, a quand même peu son mot à dire. Mais en plus, on a une législation sociale qui, bien que, bon, on ait des syndicats qui puissent être entendus avec de la représentativité, etc., on a quand même une très faible participation des salariés aux décisions de l'entreprise. Or, on voit bien qu'il faut absolument que le salarié puisse avoir son mot à dire et puisse être épanoui dans l'entreprise et puisse sentir qu'il a son mot à dire dans le destin de l'entreprise et que ce ne soit pas simplement la variable d'ajustement de quelques actionnaires en Floride, pour que aussi dans la vie publique, il ait l'impression, et surtout il ait le pouvoir de dire son mot et de donner son avis.
Vous avez choisi, Mehdi Ouraoui, de quitter le Parti Socialiste pour rejoindre Génération, ce nouveau mouvement fondé par Benoît Hamon et ses amis. En quoi Génération est-elle différente du PS ? Est-ce que c'est dans l'idéologie qui a changé ou est-ce que c'est dans son fonctionnement ?
Un peu les deux. C'est-à-dire, moi, je vais pas dire du mal d'une organisation dans laquelle j'ai passé 20 ans de ma vie, à laquelle j'ai adhéré quand j'avais 15-16 ans, voilà, j'ai gardé des amis, ça a été aussi...
Vous avez été secrétaire national chargé de la laïcité, vous avez été directeur de cabinet du premier secrétaire.
J'étais secrétaire national adjoint à la coordination, j'ai occupé des responsabilités en plus, donc moi j'ai pas l'habitude de me défausser, donc ce qui s'est passé ensuite pour le Parti Socialiste, moi j'en prends ma part, je considère qu'on est collectivement responsable, etc. Mais enfin, il y a deux choses. D'abord, il y avait un assèchement idéologique, parce que les dirigeants socialistes, alors... notamment parce qu'il y a beaucoup d'énarques qui ont beaucoup technocratisé, disons, la pensée du Parti Socialiste, au lieu d'aller chercher des idées nouvelles, la pensée s'était asséchée. Et donc moi, ce que j'ai retrouvé à Génération, ce sont des gens qui vraiment ont décidé de penser le futur. C'est quelque chose d'extrêmement stimulant dans une organisation
politique. C'est un laboratoire d'idées ?
Un laboratoire d'idées, c'est un parti politique. Mais enfin, il y a des gens, par exemple, à Génération, qui assument de n'être là que pour penser. Que pour chercher des idées, que pour les partager, que pour penser le monde aujourd'hui tel qu'il est, et puis comme il doit être demain, avec des choses très originales, le revenu universel, la taxe robot, la question des perturbateurs endocriniens, voilà, vraiment des idées qui sont des idées très originales. Et alors, surtout, le deuxième aspect, moi, qui me manquait beaucoup quand j'étais au Parti Socialiste, c'est que Génération est une organisation très horizontale, très démocratique, et qui accepte cette rupture que moi, j'ai très longtemps souhaité, sans que le PS arrive vraiment à se convertir à cette idée-là, qui assume la rupture avec la Ve République. C'est-à-dire qu'on vient de fêter, il y a quelques jours, le 60e anniversaire de la Constitution de 1958. Il faut que la démocratie française devienne plus mature, plus mûre. C'est-à-dire, il faut arrêter de croire qu'un type ou une dame nous sauver parce que ce sont les sauveurs suprêmes.
On redoute toujours le retour de la 4e République dans la 6e République. C'est-à-dire, finalement, c'est à l'Assemblée nationale qu'il y a des combinaisons entre les partis politiques et c'est ce qui fait la majorité, alors que le président de la République est choisi par l'ensemble des Français.
Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'on voit bien ces dernières années que la théorie de l'homme providentiel vraiment ne fonctionne pas. Enfin, quand on regarde nos derniers présidents de la République, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas le niveau qu'avaient des François Mitterrand ou des Charles de Gaulle. Parce que par ailleurs, François Mitterrand ou Charles de Gaulle à l'époque de Twitter, je sais pas ce que ça aurait donné. Même si évidemment ils n'ont pas tout à fait leur niveau quand même. Hein, bon. Mais surtout, il y a cette espèce d'immaturité collective que nous avons. Nous avons un deal qui est un deal pourri avec nos hommes politiques, les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est ? C'est que chacun et chacune assume de se mettre un peu en retrait, de ne pas s'impliquer, de ne pas aller dans un parti politique, de ne pas aller se présenter aux élections, etc. Et simplement de déléguer ça à des politiciens professionnels.
C'est un chèque en blanc que font les électeurs.
Un chèque en blanc, mais enfin surtout le chèque en blanc qui permet ensuite de les insulter et qui permet ensuite de dire à quel point ils sont mauvais, à quel point ils sont pourris, etc. Et puis parfois c'est vrai. Parfois, c'est sûr que parfois on a des responsables politiques qui sont au fond ceux qui pourraient rien faire d'autre. Parce que tous les gens qui sont investis dans les associations, dans leur entreprise, dans la vie de leur quartier, etc. Disent « Ah ben non, la politique c'est sale, moi je veux pas en faire, etc. » Mais enfin, à force de laisser la politique et de la sous-traiter à des gens qu'on se fait un plaisir de détester, il faut pas être étonné d'être toujours déçu. Et je trouve qu'avec Macron, c'est vraiment typiquement vrai. C'est-à-dire qu'on a, sous-traité, délégué à un banquier la conduite de la nation, forcément, on est déçu.
On en a eu d'autres, des banquiers qui n'ont pas forcément été de mauvais dirigeants politiques. C'est pas un peu facile de le ramener à la banque, toujours ?
Bon, lui, c'est un trader. C'est-à-dire que, et puis, par ailleurs, on voit bien dans sa façon de gouverner que...
Henri Emmanuelli, qui venait du Pays Basque.
Pardon, Henri Emmanuelli, qui était un voisin, qui venait des Landes. Il était employé, c'est-à-dire c'était pas un associé qui touchait des millions sur des fusions-acquisitions pour supprimer des postes. Et alors, en plus, pardon, mais enfin, pour ceux qui l'ont connu, Henri Emmanuelli était quand même d'un autre niveau que Emmanuel Macron avec sa com un peu facile et voilà. Et ses effets de paillettes.
Hein. Mehdi Ouraoui, j'ai lu avec beaucoup d'attention vos tweets car c'est un de vos modes d'expression depuis longtemps. Le mot qui revient très souvent, c'est la fraternité, le troisième élément du triptyque républicain. La fraternité, c'est la pierre angulaire aussi de toute décision politique selon vous ?
Nous, on a lancé à Génération, là, à la rentrée, un tour qui s'appelle le tour Génération Fraternité. Parce que quand même, c'est on parle même pas de l'égalité, hein, mais quand même, la fraternité est une valeur dont on ne parle quasiment plus jamais. Et surtout, il y a quelque chose de très étonnant dans ce pays qui est censé être le pays des droits de l'homme, etc., c'est que c'est devenu presque une insulte. Humaniste, droit de l'homiste. Non, mais c'est une terrible victoire intellectuelle de l'extrême droite, parce que c'est un mot quand même qui n'était utilisé au départ que par l'extrême droite. Puis alors, en plus, les cercles les plus radicaux de l'extrême droite, etc., maintenant c'est parfaitement entré dans le débat public. C'est-à-dire, droit de l'homiste, c'est devenu un mot presque normal. Mais enfin, c'est quand même bizarre au pays des droits de l'homme que droit de l'homiste soit négatif ou une espèce d'insulte. Et donc, nous, on assume de mener cette bataille idéologique. Par exemple, moi, je considère que Zemmour, c'est un scandale absolu. Moi, ça fait des années que je demande qu'il soit interdit au moins des antennes publiques, parce que, pardon, mais enfin, moi, je ne paye pas ma redevance pour entendre que, je sais pas quoi, je suis un grand remplaçant, que mes enfants... moi, ma fille, elle a un prénom français, un prénom basque, un prénom arabe. Moi, j'attends pas M. Zemmour pour qu'il m'explique comment je dois appeler mes enfants. Moi, j'ai deux prénoms arabes, un nom arabe. S'il n'est pas content, c'est pareil. Et enfin, s'il n'est pas content, par ailleurs, j'écris des discours depuis que j'ai 18 ans. J'ai fait Sciences Po, Normal Sup, et j'ai un DEA à Paris 1. Donc, je pense que j'ai plus de diplômes que lui. C'est quand même pas lui qui va m'expliquer si je suis en bon français ou pas. Donc, je considère qu'il y a des délinquants aujourd'hui, des délinquants médiatiques.
Qui ont pignon sur rue.
Exactement. Moi, je pense que Zemmour est un délinquant médiatique. C'est par ailleurs, il a été condamné pour incitation à la haine raciale, que c'est un scandale que les médias, et notamment les médias mainstream, les grands médias...
Vous le mettez dans la même catégorie, par exemple, que quelqu'un comme Dieudonné ?
Mais bien sûr,
qui,
évidemment.
Qui, lui, est boycotté par les médias.
Mais ce sont les mêmes. Oui, non, mais alors, il est boycotté par les médias. Tant mieux qu'il soit boycotté par les médias. Il passe son temps à faire des trucs antisémites, etc. Donc moi, je le dis, Zemmour et Dieudonné sont des gens qui passent leur temps à nous diviser. Mais pourquoi, collectivement, sommes-nous fascinés par ces gens-là, qui sont des clowns tristes, qui sont des clowns des passions tristes, et qui passent leur temps à nous jeter les uns contre les autres. Moi, j'ai pas besoin pour rire d'avoir un type qui me jette contre les juifs. J'ai pas besoin pour rire d'avoir Zemmour qui va attaquer Absatoussi à la télé sur le fait qu'elle devrait plutôt s'appeler Corinne. C'est pourquoi les grands médias se gargarisent, et typiquement Ardisson est vraiment le symbole de tout ça. Mais enfin, il y a des gens qui font ça aussi par derrière. Lui encore, au moins, il assume de faire le show, il assume de faire une espèce de spectacle de tout ça, mais enfin les grandes radios, RTL, Europe 1, etc. Pourquoi continuent-ils à inviter Zemmour comme si c'était un penseur, un philosophe, un essayiste? Il y a plein de gens hyper intéressants dans ce pays. Pourquoi invite-t-on ce clown triste qui est simplement, il y a 10 ans, il faisait du buzz et des médias sur le fait qu'il détestait les femmes. Aujourd'hui, il fait du buzz et des médias sur les étrangers, sur je sais pas quoi, la disparition de la nation française, etc. Quand même, collectivement, nous valons mieux que ces gens-là.
Un mot de la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Le Conseil français du culte musulman a proposé que ce ne soit plus le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des cultes, mais Matignon. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ?
Pas du tout. Moi, je crois que y a un problème en ce moment, c'est que les hommes politiques veulent mettre leur nez dans les affaires des religions et les religions veulent mettre leur nez dans les affaires de la politique. La loi de 1905, elle est simple, c'est la séparation. Voilà, c'est la séparation. Et la séparation, ça ne veut pas dire que l'un méprise l'autre ou que l'un est plus fort que l'autre, etc. Moi, les religions ont leur existence. Il y a la liberté de croyance dans ce pays. Il y a la liberté de religion. Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi systématiquement, désormais, on consulte les religieux sur les grands problèmes de société. Moi, je me fiche royalement de savoir ce que pensent les religieux sur les grands problèmes de société. Si j'ai envie de le savoir, je vais à l'église, je vais à la mosquée, je vais à la synagogue, je me renseigne dans les médias religieux, etc. Bon. Et inversement, je ne crois pas du tout que l'État ait à mettre sa main dans la formation des imams, dans le financement des mosquées, etc. Ça n'est pas du tout le rôle de l'État. Et donc, s'il devait y avoir et d'ailleurs, c'est le projet de Macron de faire ce que faisait Bonaparte avec les juifs et avec le culte israélite, disait-on à l'époque, qui était de faire un consistoire et un modèle consistorial, qui était aussi une façon pour l'État de s'intéresser de plus près à ce qui se passait dans les sphères religieuses. Bon, moi je ne crois pas du tout qu'il faille que l'État se mêle de ces affaires-là. S'il devait y avoir une autorité publique, il faudrait que ce soit une autorité administrative indépendante. Mais certainement pas que ce soit rattaché à Matignon, ça n'a absolument rien à voir avec le travail de Matignon.
Merci Mehdi Ouraoui, je rappelle que vous êtes porte-parole de Génération. Bonsoir.
Merci Loïc Barrière.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.